Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Comme d'habitude, nous avons le plaisir de retrouver avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, je vous en prie. Alors, la semaine dernière et pendant plusieurs jours, le roi Charles III était en Australie, sa première visite dans un pays du Commonwealth depuis qu'il a accédé au trône d'Angleterre. Alors Charles, avant d'être roi, s'était rendu plus d'une dizaine de fois en Australie. Il y a même fait d'ailleurs une partie de ses études, mais ses prédécesseurs, en tout cas avant sa mère, ont été beaucoup plus timides, on va dire, avec les visites en Australie, puisque eh bien, entre le moment où James Cook a officiellement pris possession de l'Australie au nom de la couronne d'Angleterre en 1770, puis le début de la colonisation en 1788, il faudra attendre encore quasiment 100 ans, en 1867, pour que la première fois une visite royale soit effectuée en Australie. Alors en 1867, donc le premier, c'est le prince Alfred. Il est le fils de la reine Victoria. Et cette visite, Romain, elle a été assez rocambolesque. On ne peut pas dire que ce soit une franche réussite.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, le prince Alfred, hein, pour le resituer, c'est le deuxième fils et le quatrième enfant de la reine Victoria et du prince Albert. Et la reine Victoria, évidemment, c'est l'impératrice en chef, hein, de l'Empire britannique. Mais c'est aussi la grand-mère de future tête couronnée européenne qu'on retrouvera au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce prince commande un navire, un bateau, le Galatea, fait un tour du monde, hein, et se retrouve en Australie. Et effectivement, il est le premier membre de la famille royale directe, hein, parents et enfants, à se rendre en Australie. Et donc, il visite plusieurs colonies, puisqu'à l'époque, l'Australie, que l'on voit comme une énorme île, est divisée en de nombreuses colonies britanniques, chacune avec son parlement. Ce n'est pas encore l'État fédéré que nous connaîtrons à partir de 1901. Et donc, Alfred, arrive d'abord, je crois, vers Adélaïde, en Australie méridionale.
Absolument.
Il perd un de ses marins, hein, malheureusement, mais à mesure que ses visites continuent, les cafouillements, cafouillements un peu plus que ça d'ailleurs, s'enchaînent. À Bendigo, qui est une ville du Victoria, un bal va être donné en son honneur, l'endroit où le bal doit avoir lieu brûle, des feux d'artifice sont organisés avec une réplique de son bateau en bois, qui prend feu alors qu'elle a été occupée par des petits-enfants. Ça, c'est moins drôle parce qu'il y en a trois d'entre eux qui décèdent. Donc, en fait, ça commence plutôt mal son séjour. Mais alors, il est quand même accueilli partout par, bien évidemment, les représentants politiques, mais aussi la foule qui est intéressée par cet enfant royal. Enfin, quand même, il s'agit du fils de la reine Victoria. À l'époque, la reine Victoria, c'est quelque chose. Et puis, il continue son périple, hein. Il se rend à Brisbane, il se rend à Sydney. Et alors, pas de chance, c'est un moment où il y a énormément de tensions entre les Irlandais catholiques et les Britanniques, surtout les Anglais protestants. Et puis, il y a une tentative d'assassinat, hein, qui a eu lieu sur Alfred par un Irlandais, Henry James O'Farrell, qui lui tire dessus, hein, derrière son dos. Alors le prince s'en sort, et O'Farrell manque de se faire lyncher, et puis est conduit en prison, évidemment. Et par ailleurs, bon, il est évidemment condamné à mort et exécuté, mais avant l'exécution, hein, le prince Alfred avait demandé de la clémence pour qu'il ne soit pas, mais enfin, la justice était ce qu'elle était à l'époque. Donc, un voyage dont il se souviendra, évidemment. Il survit à cette tentative d'assassinat, mais les Australiens retiennent quand même quelque chose de plutôt positif, le fait que voilà, un membre de la famille royale se déplace dans une ancienne colonie pénitentiaire quand même, ce qui signifie aux yeux du monde un certain succès de ces colonies qui, du statut de colonie pénale, sont devenues des endroits où il y a des opportunités économiques, voire culturelles.
Oui, et puis on ne voudrait pas faire croire non plus que ce temps pris pour assurer une première visite, c'était du dédain aussi. On rappelle aussi que l'Australie, c'est à l'autre bout de la planète par rapport à l'Angleterre et qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'avion et qu'un voyage de ce type prend plusieurs mois. On avance un petit peu dans le temps maintenant, presque un bond de 50 ans en avant, cette fois en 1926. À nouveau, une visite princière. La princesse Elisabeth accompagne le prince qui se rend sur place. Ce sont en fait les parents de la future reine Elisabeth II qui se rendent en Australie. Et je voulais revenir sur cette visite parce que c'est la première sans doute qui est vraiment un succès total. Alors déjà, il y a un côté symbolique. Ils sont là pour inaugurer le nouveau Parlement à Canberra qui n'est devenu la capitale officiel de l'Australie qu'à peine 15 ans plus tôt. Et par ailleurs, ce couple princier, quand il arrive à Sydney en bateau dans la baie, il y a plus d'un million de personnes qui les attendent sur le port et ça, c'est une première.
Oui, tout à fait. Effectivement, ils arrivent en 1926. La reine Elisabeth II est toute petite, pardon, et elle est d'ailleurs tellement petite qu'elle est restée avec ses grands-parents, la reine Marie et le roi George V, donc, en Angleterre, pendant que ses parents, le prince Albert, Duke of York, et sa maman Elisabeth, font un tour royal d'Australie, où effectivement, ils sont accueillis à Sydney par une foule absolument gigantesque. On parle d'à peu près 1 million de personnes. Alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, l'Australie doit avoir à peu près 6 millions d'habitants.
Oui. Et 1 million, ça doit être peu ou prou toute la population de Sydney à l'époque.
Voilà.
Ouais.
Et exactement. Alors, plus ceux qui se sont déplacés des environs, parce que, bien évidemment, l'arrivée de Ses Majestés avait été annoncée, hein, et donc, il y a un bain de foule gigantesque pour les monarques. Il s'explique par plusieurs choses. Déjà, hein, depuis la première visite du prince Alfred en 1867, vous avez eu d'autres princes et d'autres personnes de la famille royale qui sont venues en Australie entre 1867 et 1926. Donc, l'Australie connaît une fréquence des visites accrue du fait des moyens de transport qui s'améliorent. Hein. On pense à l'avion, par exemple, qui rend ces choses-là un peu plus pratiques. Et puis, par ailleurs, il s'est passé un événement majeur, à savoir la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale où les Australiens se battaient for King and Country. Hein, pour le roi et pour le pays. Et le pays peut se comprendre comme colonie, peut se comprendre comme Australie et peut se comprendre comme l'Empire. D'ailleurs, souvent sur les mémoriaux, vous avez for King and Empire, pour le roi et pour l'Empire. Si bien que quand vous avez le papa de la reine Elisabeth II qui se déplace en 1926, la foule australienne les accueille parce qu'on est à un moment dans l'histoire de l'Empire britannique où il est quasiment au comble de sa puissance. Alors, à cette époque-là, les monarques n'ont pas le pouvoir constitutionnel qu'avait, par exemple, la reine Victoria, mais ils restent des figures symboliques extrêmement importantes. Et voilà, les Australiens se sentent récompensés du service qu'ils ont rendu à l'Empire, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Afrique du Sud et d'autres colonies, les Terre-Neuve, etc., qu'ils ont rendu à l'Empire pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, on avance encore un petit peu dans le temps. On va parler cette fois de la première visite d'un souverain en exercice. Il s'agit donc de la reine Elisabeth II, qui se rend pour la première fois en Australie en tant que reine en 1954. Elle n'a alors que 27 ans, et ça fait seulement 2 ans qu'elle a été couronnée. Et cette visite, elle est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je crois que les records d'affluence n'ont jamais été battues depuis cette époque. Elle va rencontrer, est-ce qu'elle fait une visite qui la rend, enfin, qui fait qu'elle se rend quasiment partout dans le pays, y compris dans des zones rurales. Et on estime qu'elle rencontre, alors pas toute la population, mais les 3/4 de la population australienne voit la reine au cours de cette visite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors oui, au cours de la première visite de la reine Elisabeth, hein, ça fait 2 ans qu'elle est sur le trône, elle devait venir avant, mais ça avait été annulé du fait justement du décès de son papa. Au cours donc de cette première visite en 1954, Effectivement, on estime que 75% des Australiens auraient eu l'opportunité de l'avoir, ce qui veut dire qu'en réalité, elle s'est rendue, donc elle a fait le tour de l'Australie, hein, complet, et elle s'est rendue dans toutes les grandes villes principales et les grandes villes régionales. Donc, si vous voulez, ce n'est pas que 75% des Australiens l'ont vue directement, c'est que ces 75% des Australiens ont eu l'opportunité de la voir s'ils voulaient sortir de chez eux pour aller voir la reine passer dans la rue principale de la ville dans laquelle ils étaient. Ce que nombreux étaient les Australiens à le faire. Donc effectivement, c'est un bain de foule à l'échelle nationale pour la nouvelle reine, qui est à l'époque, comment dirais-je, c'est une attraction. Vous avez une reine. Déjà une reine, après plusieurs rois, la reine qui l'a précédée avant, il faut remonter à la reine Victoria, donc c'est déjà il y a un moment. Et puis par ailleurs, elle est jeune, elle est belle, la Seconde Guerre mondiale, les traces sont finies, donc on est plutôt dans un esprit joyeux, et effectivement, partout où elle passe, elle est acclamée. Donc ce n'est pas tellement comme son aïeul, le prince Albert, qui a eu toute une série de soucis. Le tour de Sa Majesté la Reine Elisabeth en 1954 se passe très bien. Et par ailleurs, vous avez le premier ministre de l'époque, hein, Robert Menzies, qui est un royaliste absolument convaincu, qui conclut qu'en fait, hein, le trône comme institution est vraiment le ciment de la nation australienne. On est en 1954, rendez-vous compte. Hein. C'est intéressant de se dire à quel point les Australiens, qui sont effectivement britanniques, hein, c'est cohérent si vous voulez, mais à quel point les Australiens suivent les voyages de la reine. Et la reine se rendra souvent en Australie. 54, 63, 1970, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 86, 88, 92, 2000, 2002, 2006 et 2011. Donc un certain nombre de visites rendues possibles évidemment par le transport aérien.
Alors, sur ces très nombreuses visites, on ne va pas revenir sur les autres. Je précise juste que 1973, elle était là pour l'inauguration de l'Opéra de Sydney, dont on a parlé dans un autre épisode de notre série. On va s'intéresser maintenant à son fils, à une époque où il n'est pas encore lui-même roi, qui s'est donc, on l'a dit au début, rendu également de très nombreuses fois en Australie. Mais il y a une visite peut-être qui a retenu mon attention plus qu'une autre, c'est en 1983. Il est alors jeune marié avec Diana, donc Lady Di, la princesse de Galles. Ils sont accompagnés de leur alors tout jeune fils William. Et en fait, je voulais revenir sur cette visite en particulier parce qu'elle est racontée dans la série The Crown. Et dans la série, cette visite, on nous explique qu'elle s'inscrit dans un contexte particulier. C'est un moment où l'Australie est gouvernée par un travailliste, peut-être même le travailliste, Bob Hawke, qu'il est très attaché à l'idée d'une république. Il pense que son pays est mûr pour basculer. On nous fait comprendre aussi d'ailleurs que cette visite du prince Charles, c'est peut-être justement pour un petit peu calmer les ardeurs républicaines en Australie. Et la façon dont l'épisode est construit, on nous raconte qu'il y a un tel effet Diana dans la population australienne que le Premier ministre australien abandonne complètement son projet de transformer l'Australie en république parce qu'il se dit, face à une belle jeune femme comme ça qui séduit tout le monde, moi je vais passer pour un vieux ringard et mon idée c'est sûr qu'elle va être envoyée aux oubliettes. Est-ce que cet épisode est proche de la réalité ou pas?
Non, je suis désolé, je vais faire mon vieux professeur d'histoire. Non, hein. Dans le cas de cet épisode, hein, je n'ai pas regardé les autres, mais j'ai regardé celui-ci parce que je savais que vous alliez me poser la question. Dans le cas de cet épisode, non, vous avez des raccourcis historiques assez importants et surtout en fait des anachronismes. C'est-à-dire qu'effectivement, le prince Charles et la princesse Diana, quand ils viennent en Australie, avec déjà le petit prince William, sont très très bien reçus. Évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur Diana. Ça, c'est une réalité historique, que ce soit en Australie ou ailleurs. Hein, c'est la jeune princesse qui va devenir reine, enfin qui devrait devenir reine, mais qui en réalité ne le sera pas. Et donc, effectivement, il y a un phénomène Lady Di. Mais Bob Hawke, à l'époque, est un républicain, mais un républicain qui n'est pas pressé. Par ailleurs, il s'entend très bien avec la reine d'Angleterre. puisque c'est son chef d'État. Hein. Pour rappeler que le Premier ministre en Australie a un chef d'État sur place, qui est le gouverneur général, qui représente le roi ou la reine d'Angleterre, en l'occurrence à cette époque, Elisabeth II. Donc, j'ai trouvé que l'épisode le faisait passer pour une espèce de grossier personnage, qu'il pouvait être parfois, mais pas vraiment à l'égard de la reine. Donc, effectivement, le débat républicain à l'époque en Australie est plutôt réservé à une certaine classe, on va dire, d'intellectuels. L'idée n'a pas encore fait son chemin. En fait, il faut attendre le Premier ministre d'après, dans les années 90, Paul Keating, qui, alors, lui, va mener campagne pour la République, au point qu'il va obtenir un référendum qui sera une défaite en 1999, puisque, pour alors, vous avez un nouveau Premier ministre de droite conservateur et monarchique. Monarchiste, pardon, qui est au pouvoir, John Howard, qui va tout faire pour faire capoter le référendum sur la République. Dans l'ensemble, en 99, les Australiens veulent une République, mais ils ne sont pas d'accord sur le type de République, et donc, à défaut, vote contre. Et vous voyez, 99, c'est quand même assez loin de 1983. Donc en fait, c'est une espèce de relecture anachronique du passé, où effectivement, personnellement, il l'a exprimé à plusieurs reprises, hein, en public, Bob Hawke est un républicain, mais c'est quelqu'un qui est aussi un excellent politicien, qui sait se faire réélire à deux reprises, puisqu'il a fait trois mandats, et qui, ou quatre d'ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui connaît bien sa population et qui voit bien qu'en fait, le débat sur la République en 83 n'a aucune chance.
Ouais.
Donc, vaut mieux pas aller perdre des points et du capital politique sur un sujet où vous savez que vous n'emporterez pas la majorité. Voilà. Donc,
OK.
l'épisode était plutôt réussi. Mais sur ce point-là, je suis désolé, comme sur beaucoup d'autres points, tout ce qui est série, qui parle du passé, généralement, c'est plutôt romancé ou du mythe ou de la légende, mais pas vraiment de l'histoire.
Très bien. Bon, eh bien, on regardera ça avec plus de circonspection, pardon. On arrive maintenant à l'histoire très récente, la semaine dernière, donc la visite du roi Charles III en Australie. Alors, pour être tout à fait transparent, je n'étais pas en Australie au moment où elle a eu lieu, donc je n'ai pas tout suivi dans les moindres détails, mais j'ai vu que l'un des moments qui a fortement retenu l'attention des médias, c'est le fait que, alors qu'il était en train de s'adresser au Parlement, il a été interpellé assez vivement par une sénatrice aborigène, Lydia Thorpe, ancienne élue écologiste qui a créé son propre parti, le parti de la souveraineté noire, si je ne dis pas de bêtises. Et qui l'a en gros admonesté en lui disant: vous n'êtes pas mon roi, vous n'êtes pas mon souverain. Il y a eu beaucoup de critiques à son égard dans la presse. Toujours est-il qu'elle a mis quand même le doigt sur quelque chose qui pose question. On sait que la couronne britannique essaye de faire amende honorable sur un certain nombre de choses, la question du climat, etc. En revanche, sur eh bien, le passé colonialiste, le fait que l'Australie, comme tout un tas d'autres pays à travers le monde et tout un tas de peuples indigènes à travers le monde, ont été soit massacrés, soit asservis au nom de la couronne, ça n'a jamais vraiment été reconnu. Il n'y a jamais eu non plus d'excuses qui ont été formulées. Comment vous avez vécu tout ça, vous, Romain, ce happening, on va dire?
Ah oui, mais alors là, je vais être obligé de faire tomber le masque. Moi, je suis un républicain convaincu, donc j'ai mis un point d'honneur à ne pas m'attarder à regarder ces choses-là, d'autant plus que comme je suis installé à Canberra et qu'effectivement le roi et Camilla sont venus au War Memorial, enfin étaient présents, voilà, j'aurais pu être dans le feu de l'action, mais j'ai choisi de ne pas l'être. Parce que je considère que, voilà, vous avez rappelé qu'il y a tout un tas de problèmes liés à cette monarchie. On est encore dans un pays où une certaine partie de la population bénéficie de la colonisation vis-à-vis d'une autre partie qui n'en bénéficie pas du tout. Et là, on parle effectivement des aborigènes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le roi a été convié au Parlement, évidemment, et comme la parlementaire que vous avez présentée, Lydia Thorpe, est sénatrice, avait tout à fait droit d'être au Parlement et il était un peu attendu hein, qu'elle se fasse remarquer puisque le matin même, elle avait déjà été dans une manif protester. Donc, la sécurité au Parlement était un peu sur le qui-vive et ne s'est pas trompée, puisqu'effectivement, elle s'est présentée devant le monarque et lui a dit que pour elle, ce n'était pas son roi. Or, c'est problématique parce que, en tant que parlementaire australienne, qu'elle soit dans la chambre basse, hein, l'Assemblée nationale locale, ou la chambre haute, le Sénat, elle a dû prêter serment au roi et à sa future descendance.
Oui, alors justement, je ne sais pas si vous avez vu le moment de sa
Oui.
prestation de serment, mais déjà, elle avait fait parler d'elle, puisque elle avait, en tout cas, au premier abord, refusé de lire le texte officiel que doivent lire les parlementaires quand ils sont investis, et elle avait prêté allégeance non pas à la reine Élisabeth II à l'époque, mais à la colonisatrice Élisabeth II. Et on l'avait forcée à relire le texte officiel, elle l'avait fait sur un ton qui montrait que c'était
Bien sûr.
plein de sincérité, on va dire. Ouais.
Et par ailleurs, elle a essayé de jouer sur le mot heir en anglais, qui veut dire héritier, mais d'après elle, elle l'a prononcé d'une façon pour dire cheveux. Donc elle aurait prêté serment aux cheveux de la reine plutôt qu'à ses héritiers. Donc c'est une boutade, mais enfin, ce que ça montre, c'est que vous avez une sénatrice qui est aborigène et qui refuse le système politique dans lequel elle-même est élue. Pourquoi? Parce que c'est le seul système politique qui existe où elle pourrait peut-être faire une différence et faire avancer les choses. Donc, au lieu d'être à l'extérieur et de contester, elle essaye de faire avancer les choses depuis l'intérieur. Alors, la façon dont elle s'y prend, hein, peut être critiquée, mais aujourd'hui en Australie, sur vos billets, sur vos pièces, vous avez la tête de la reine, maintenant la tête du roi. Donc oui, l'Australie est un pays, mais culturellement et surtout constitutionnellement, il est relié à la monarchie britannique. Et ça, ce n'est pas au goût de tout le monde, puisque, vous l'avez rappelé en tout début d'épisode, le capitaine Cook prend possession de l'Australie pour la couronne en 1770. Et à partir de là, vous avez une décimation systématique des populations aborigènes. Donc à partir de ce moment-là, il est logique que plusieurs générations après, vous ayez des personnes comme Lydia Thorpe qui n'aient pas gardé un bon souvenir de la monarchie et qui voudraient, qui souhaiteraient que le chef de l'État de l'Australie soit une personne qui soit soit née ici, soit australienne, mais qui dans les deux cas réside ici plutôt que d'être parler de Buckingham à Londres.
Alors, c'est le dernier point, on l'a évoqué rapidement, mais je voulais revenir dessus. Lors du décès de la reine Élisabeth II, il y a 2 ans, justement, ce débat sur la transformation de l'Australie en république a ressurgi. Beaucoup disaient, bon, la reine, en gros, enfin, vu la longévité de son règne, c'était un peu la mamie de tout le monde. Elle avait une image, malgré tout, très positive. Son fils Charles, c'est quand même moins le cas. En tout cas, c'était moins le cas avant qu'il ne devienne roi. Et on sait par ailleurs que le Premier ministre actuel, Anthony Albanese, comme la plupart des travaillistes, est partisan de la clause républicaine. Dans son premier gouvernement, il y avait d'ailleurs un ministre délégué à la République. Sauf que il y a eu un remaniement en août dernier. Ce portefeuille a disparu. Est-ce que ça veut dire que l'Australie a abandonné ses projets de devenir une république, ou est-ce que c'est ce gouvernement en particulier, peut-être après l'échec assez cuisant de référendum sur la voie aborigène, qui a plus la volonté de mettre en place une autre réforme institutionnelle majeure?
Alors, le gros moment, la décennie la plus importante du mouvement républicain en Australie, c'est les années 90. Depuis, vous avez une marée qui s'est complètement retirée, et là, on est à marée basse. C'est-à-dire que les fervents républicains, vous en trouverez chez les Australiens. Parfois, les Australiens assez âgés, qui se souviennent de 1975, où le représentant de la reine avait renvoyé un premier ministre élu, ce qui était très mal passé, évidemment. Et puis, vous avez aussi des intellectuels. Le républicanisme en Australie n'est pas une question qui, aujourd'hui, va vous apporter des voix. La crise du logement, certaines questions environnementales, etc., occupent beaucoup plus l'espace médiatique que le républicanisme. Et le Premier ministre Anthony Albanese est plutôt un pragmatique de ce point de vue-là. Effectivement, comme un de ses prédécesseurs libéraux, Malcolm Turnbull, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'effectivement, il faut une république en Australie. Mais à terme, l'Australie va probablement y arriver toute seule. Simplement, ce n'est pas le bon moment. Donc, si vous choisissez mal votre moment, vous allez faire reculer votre cause. Un peu ce qui s'est passé effectivement avec la voix aborigène au Parlement et le référendum qui s'est tenu en 2023. Donc, ce n'est pas que le républicanisme n'a pas d'importance, mais c'est que de façon générale, les Australiens pensent que if it's not broken, don't fix it. Si c'est pas cassé, vous amusez pas à le réparer. Hein. C'est-à-dire que après tout, le roi est loin, on fait à peu près ce qu'on veut, il n'y a pas de lien qui nous oblige comme par le passé. Donc c'est une situation qui est un peu difficile à comprendre pour des Français qui sont très attachés à la souveraineté, mais en fait ce qui compte ici, c'est pas tant la souveraineté ou le symbolisme national que d'être protégé. Et en l'occurrence, qui offre la protection, c'est Washington. Mais le lien culturel avec la Grande-Bretagne est très important. Les rues ont, enfin, la topographie, il y a beaucoup de Prince Albert, Queen machin, Prince ceci, partout. D'ailleurs, pour Prince Albert qu'on a mentionné, avec la tentative d'assassinat en début d'épisode, pardon, Alfred, le Prince Alfred Hospital, qui est un des plus grands hôpitaux de Sydney, porte ce nom parce qu'en fait, il a été au début construit sous souscription publique comme étant un mémorial justement pour que les Australiens remercient la visite d'Albert. Et en fait, quand vous regardez les lieux australiens, que ce soit le Parlement, la Cour principale de justice, la High Court, l'Opéra de Sydney, vous l'avez rappelé, la plupart des lieux importants en Australie ont été inaugurés soit par la reine, soit par des membres de la famille royale. Donc, si vous voulez, culturellement, ça reste un pays qui, encore aujourd'hui, même si c'est un pays qui sait qu'il est en Asie-Pacifique, même si c'est un pays qui sait que sa démographie a évolué, la figure du monarque est encore quelque chose qui est important. Mais il y a aussi eu le fait que sur les 10 dernières années, la famille royale qui n'a plus vraiment de pouvoir, a fait un énorme travail de rajeunissement et surtout de propagande culturelle. En 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, vous avez eu soit le prince William, soit le prince Harry qui sont venus. Et alors, à l'époque, ils ont été accueillis comme des pop stars. Donc, en fait, on est passé sur un peu de la pitbullisation de la famille royale qui fait que. Ben voilà, c'est assez intéressant dans les tabloïds pour l'Australien moyen de se connecter à cette histoire un peu plus glamour de la famille britannique. Donc voilà où on en est. Je ne peux pas vous apporter de réponse claire et nette sur la République en Australie, mais aujourd'hui, le mouvement républicain australien, d'ailleurs qui a son propre site internet, comment dirais-je, n'a pas le vent en poupe.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces précisions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'histoire de l'Australie. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Au revoir.